pourquoi faisons-nous la guerre aux Troyens? Et pourquoi le fils d'Atrée est-il venu camper ici? N'est-ce point pour Hélène aux beaux cheveux?
Tout est dans Homère, et voici tout Homère.
Homère, l'Iliade et l'Odyssée, sert d'une sorte de compendium pour les jeunes Grecs, où ils apprennent tout. Ils apprennent ce que c'est que les valeurs, les dieux, l'art de la guerre, la vertu, le vice, le mensonge, tout est là-dedans. Si la langue est la même, il y a des différences d'orientation entre ces deux grands poèmes, et on ne peut pas affirmer que c'est le même poète. Mais derrière cette question, il y en a une beaucoup plus grosse, si je peux dire, beaucoup plus générale, plus difficile encore, c'est est-ce qu'on peut parler pour des poèmes de ce genre et de ces époques d'un auteur au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans son cabinet, écrit un manuscrit, le signe, l'envoie, c'est-à-dire où le rapport entre l'œuvre et ce que nous appelons l'auteur est fondamental.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Notre invité que je présente dans un instant va apprécier que cette émission soit mise sous le signe de Jean-Pierre Vernant, qui, avec d'autres, Nicole Laureau, Pierre Vidal-Naquet, est un peu un protagoniste, bien que disparu apparemment, de ce grand projet d'intégralité que vous portez. Hélène Monsacré, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais peut-être utiliser des formules pour vous présenter. Hélène Monsacré, aux pieds ailés, besace garnie, grande pourvoyeuse en texte. Parce que qu'est-ce que c'est votre métier?
Mon métier, c'est d'être éditrice. Éditrice de textes très contemporains, de réflexions, et aussi de, avec mes petits moyens, mais avec l'aide de cette belle maison, les belles lettres, de contribuer à la diffusion des textes anciens, grecs et latins, dans une petite collection de poches qui se sert au sens premier du terme, dans un fonds magnifique qui est celui de la collection des universités de France, que l'on appelle généralement la collection Budet.
Les belles lettres, on s'entend, il faut le signaler. Donc, vous avez fédéré les énergies des belles lettres et celles d'Albin Michel, où vous travaillez encore plus régulièrement pour, à la tête d'une équipe que vous avez constituée, publier un tout Homère, c'est notre titre aujourd'hui. Demain, après-demain, les jours qui viennent. Vous avez entendu la question que posait Jean-Pierre Vernant. Vous présentez à la fin, on va commencer par la fin, c'est plus logique, vous consacrez une soixantaine de pages aux vies d'Homère, au pluriel. Je ne sais pas si, une fois qu'on les a lus, on peut répondre à la question de Vernant. Est-ce qu'Homère est un auteur au sens contemporain du mot aujourd'hui? Homère, alors on dit généralement 8e siècle avant notre ère, mais dès le 6e siècle avant notre ère, il y a mention d'Homère, et ensuite, des biographies d'Homère se constituent peu à peu.
En effet, dans ce volume, nous les reproduisons, ces vies, il y en a 10. Qui partent, la première en effet du 6e avant, et la dernière est écrite par un Byzantin au 12e de notre ère. Donc vous voyez que pendant déjà près de 18 siècles, on a cessé de se préoccuper de trouver une origine et d'écrire une biographie de cet immense poète. Alors des vies d'Homère, il y en a de nombreuses, mais il y a surtout autant de versions qu'on veut, parce qu'au fond, Homère, c'est une sorte de c'est la définition même de la poésie. Chaque ville, chaque île veut revendiquer l'origine de ce poète.
Alors, Homère est de partout, ainsi que le dit la vie que vous numérotez de ces pages 1159 de votre livre. Mais attendez, il y a combien de pages dans votre livre?
1296.
Tous les hommes désirent faire leurs compatriotes d'Homère et Hésiode, les poètes les plus divins. Hésiode, en nommant sa patrie, a écarté toute dispute. Mais Homère, toutes les cités et leurs habitants, pour ainsi dire, prétendent qu'il est né chez eux. Les premiers furent les habitants de Smyrne. Ils affirment que, né du Mélès, le fleuve du lieu, et de la nymphe Crétéis, il fut appelé d'abord Mélésigénès. Plus tard, cependant, devenu aveugle, il fut rebaptisé Homère, parce que l'usage était chez eux d'appeler ainsi ces personnes. Mais de leur côté, ceux de Chios veulent fournir une preuve de ce qu'il est un des leurs, en disant que, dans leur ville, subsistent même des personnes de sa famille, que l'on appelle les Homérides. Et les habitants de Colophon vont jusqu'à montrer l'endroit où, assure-t-il, alors qu'il enseignait à lire et à écrire, il se fit poète et, pour commencer, composa le Margites. On lui donna pour nom Mélès, mais certains affirment qu'on l'appela Mélésigénès et d'autres Altesse. Il aurait dû le nom d'Homère, d'après quelques-uns, à ce que son père fut donné comme otage, Homéros, par les Chypriotes aux Perses. D'autres assurent toutefois que ce fut à cause de la perte de sa vue. C'est ainsi que, chez les Éoliens, on appelle les aveugles.
Donc, rien n'est certain. Quand on dit qu'il est d'Asie mineure ou d'une île voisine de la Mésie mineure, il peut y avoir d'autres interprétations. Quand on dit qu'il s'appelle Homère parce qu'il est aveugle, ça peut être une autre explication qui peut être mise en avant. Et puis, en admettant qu'il soit aveugle, comment est-il devenu aveugle ? Autant de variantes qui embrouillent l'auditeur, et c'est comme ça que le mythe se construit.
Oui, il est otage, il est aveugle, il est errant, il est aussi l'ajusteur, parce que aussi une des étymologies ramène à cette idée d'ajointer, de mettre ensemble. Donc c'est vraiment, dans son nom, il y a beaucoup, et on peut aussi dire qu'il y a ce qu'on veut y trouver. En réalité, Homère, c'est ce poète en majesté qui n'est jamais d'une seule patrie, n'est jamais d'un seul lieu, qui est toujours entre les mondes, le divin, le monde terrestre, qui est un homme pauvre, mal reconnu de son vivant, pense-t-on, d'après les...
Ah oui, mais alors là, il y a un problème, vous dites poète en majesté.
Poète en majesté pour
il devient la gloire, et en même temps, son existence est toute faite de
misérable.
Médiocrité,
misérable. D'errance. Oui, il passe son temps à se transporter d'un lieu à l'autre pour essayer de survivre. Généralement, ses vers splendides sont pillés, les uns les autres s'en emparent. Il termine misérablement sa vie. Vous savez qu'on pense qu'il est mort il était bien vieux, un peu mal en point, il glisse dans une flaque d'eau, tombe sur une pierre, et deux jours après il est mort.
Et ce, après avoir perdu, dit-on, un concours
concours
à son symétrique Hésiode. Et puis il n'avait pas su répondre dans cette île Dios où il disparaît dans les Cyclades aux énigmes que lui posaient des jeunes gens, des gamins, quoi.
Des gamins pêcheurs, oui.
Ouais. Vous avez dit qu'il était un ajusteur. Alors, c'est ça qui caractérise votre livre. Votre livre, c'est une rhapsodie au sens que ça conjoint.
Oui.
Ça ajuste.
C'est une couture.
Ouais. Ça couture donc les vies d'Homère, si tant est que Homère ait existé, parce que le mieux serait de dire que c'est une énergie partagée par
Absolument.
Beaucoup.
Absolument. C'est en tout cas, retrouvons Vernon, c'est un auteur multiple, ouais. Sans aucun doute.
Alors, sa couture, les vies d'Homère, et puis quand même les deux grands poèmes, l'Iliade et l'Odyssée. Et là, vous avez confié à Pierre Judet de Lacombe une nouvelle traduction de l'Iliade, on l'entendra après-demain, ici, sur cette antenne.
Oui, 16 000 vers.
Et les vers de l'Odyssée qui sont moins nombreux.
Ils sont de 11 500, et là, nous avons repris la traduction
centenaire, ou presque.
Centenaire, et
je vois que vous cherchez un qualificatif.
Non, je voulais dire la traduction canonique, académique, magnifique de Victor Bérard.
Qui date de 1924, je crois.
C'est ça.
Dites-moi, ces textes des poèmes, il y a eu une sorte de CNRS à Alexandrie au 3e ou au 2e siècle avant notre ère qui a contribué à les fixer. Après, il y a eu des manuscrits byzantins, vous parliez de Byzance.
Oui.
Mais dans les textes tels qu'ils nous sont transcrits, les copistes ou les commentateurs ne mettent pas des scolies entre les lignes.
Alors, il y a deux sortes de scolies. Il y a les scolies anciennes qui sont, comme vous venez de le dire, on les date généralement du 3e siècle, troisième, deuxième avant. Et là, c'est une équipe de grammairiens. En effet, c'est le CNRS d'Alexandrie où ils sont philologues, grammairiens, extraordinairement calés. Et les scoliastes, donc ces érudits, en marge, sous un verre, ça dépend, inscrivent des remarques, des notices, pour dire telle forme verbale, ça n'est pas possible, ou bien tel instrument, on ne peut pas le trouver à cette époque-là, etc. Donc on a une sorte de paratexte qui est très utile, et puis plus tard, les Byzantins, eux, sur les manuscrits également, par soit des commentaires, soit des scolies, continuent de commenter ces poèmes.
Et ces scolies, vous en imprimez un certain nombre. Donc, tout Homère, c'est aussi ce qui est à la marge d'Homère.
Oui, c'est ce qui est à la marge, ce qui est autour.
Et puis, dans le sillage d'Homère, ça, on ne le sait pas toujours, ou du moins, on l'a oublié, parce qu'on le savait beaucoup dans l'Antiquité. Il y a toutes sortes de divertissements et de parodies qu'il a été plus difficile aux anciens d'attribuer très longtemps à Homère. Et ça, vous les publiez aussi.
Oui. Alors, celle qui est quand même le plus souvent qui a été réellement attribuée à Homère, c'est celle qui est, par chance pour nous, la plus longue, puisqu'il y a environ 300 lignes, 300 vers. C'est l'histoire de la bataille des souris et des grenouilles. Et elle est absolument désopilante, parce qu'en fait, c'est une micro-Iliade où on a tous les codes de la parole entre héros, entre combattants. Toutes les scènes typiques sont reproduites dans cette petite fable où on voit des grenouilles qui sont en train de se...
qui vont se battre avec des rats. Mais alors, il faut quand même rappeler le contexte. Joug gonflé.
Oui.
Il règne sur un étang peuplé de grenouilles.
Oui.
Il propose à un rat qui s'appelle Gratte-Miette de traverser l'étang sur son dos, mais il prend pas assez soin de Gratte-Miette. Un serpent d'eau surgit, Joug gonflé plonge, et Gratte-Miette se noie. Et aussitôt après, voici que les rats et leurs alliés vont se mobiliser, tout ça sous le regard de Zeus qui va demander s'il y a des dieux ou des déesses pour soutenir les deux camps qui sont en train de se constituer, autant dire les Achéens et les Troyens.
Zeus eut un léger sourire et demanda quels immortels apporteraient leur secours aux grenouilles ou aux rats. Il s'adressa à Athéna. « Ma fille, assisteras-tu donc les rats ? On les voit tous les jours sautiller dans ton temple. La graisse de tes victimes, ils la savourent tous, et mille autres aliments qui te sont destinés. » Ainsi parla le fils de Cronos, et Athéna lui répondit. « Mon père, jamais, non, jamais je ne viendrai en aide aux rats, quand ils seraient en grand danger, car ils m'ont causé bien des maux. Ils ont endommagé mes bandelettes sacrées et mes lampes pour en boire toute l'huile. Ah, et ce qu'ils ont fait m'a crevé le cœur. Ils ont rongé et percé de trous ma robe de fine laine. J'avais mis tant de peine à la réaliser. Mais je ne viendrai pas défendre les grenouilles pour autant. Non, je refuse. Elles non plus ne sont pas raisonnables. Je revenais il y a peu de temps du combat, complètement exténué de fatigue, et je ne désirais qu'une chose, dormir. Eh bien, elles m'en ont empêché avec tout leur vacarme. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, pas même une minute. Je suis resté allongé sans dormir, ma tête me faisait horriblement mal, jusqu'à ce que le coq se mette à chanter. Mais allons, nous sommes des dieux, nous. Cessons donc de secourir ces pauvres animaux. » Ainsi parla-t-elle. Les autres dieux s'étaient laissés convaincre. Alors les moucherons firent résonner leurs longues trompes, le tumulte guerrier retentit, déchirant. Dans la voûte céleste, Zeus le Cronide tonna, prodige terrifiant du début de la guerre.
Et la guerre se déploie un peu sur le mode de celui de la guerre dans les deux poèmes, quoi, avec la répartition des rôles des dieux.
Absolument, les dieux sont sur l'Olympe, observent, parfois descendent, prendre part au combat. Et on a surtout les scènes typiques d'armement, où on va voir que les souris se revêtent d'un casque en pois chiche et les grenouilles se protègent les pattes avec des feuilles de guimauve. Donc tout ça est absolument cocasse et totalement, c'est une vraie parodie, c'est-à-dire le discours, les formules, les apostrophes sont absolument ce que l'on lit dans l'Iliade.
Et dans un autre texte parodique, la bataille des belettes et des souris, on voit une parodie de la mort de Protésilas. Protésilas, c'est le premier de la guerre de Troie qui a été oxy. Et ben là, il s'appelle Quicos. C'était le meilleur ravisseur de tripes parmi les souris. Mais le solde de sa patrie ne le reçut pas de nouveau, car c'est lui qui, en premier, fut attaqué par la belette, qui le brisa en deux, en plein milieu, entre les mâchoires.
C'est absolument les scènes de combat de l'Iliade.
Mais ça suppose quand même, de la part de l'auditeur, une connaissance presque érudite pour pouvoir repérer la parodie, l'imitation, la moquerie. On fait souvent le parallèle entre l'auditeur des textes homériques et l'auditeur du jazz qui sait repérer les ruptures, les interstices, les intertextes, les différences. Voici une illustration avec Michel Petrucciani.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Tout Homère, un fort volume de 1296 pages, papier Bible. Et figurez-vous que ça ne coûte que 35 euros. C'est publié par Albin Michel et les Belles Lettres tout ensemble. Et la responsable de l'équipe qui a composé ce volume, cette rhapsodie faite de conjointement et de couture, c'est notre invitée Hélène Monsacré. Parce que l'Iliade et l'Odyssée, bon, ça répond pour chacun des poèmes, à une grande question. Les auditeurs s'en posaient plein d'autres.
Les auditeurs s'en posaient plein d'autres, et surtout la première, celle de la colère d'Achille. Donc
ça, c'est l'Iliade, la question de l'Iliade.
Elle n'est pas venue par hasard, cette colère. Donc il y a un avant, il y a des raisons à cette guerre qui oppose les Grecs et les Troyens. On en trouve l'explication dans une série de mythes, mais surtout dans une série de morceaux d'épopée qui nous sont conservés. 30 lignes, en l'occurrence, pour les chants cypriens. Et c'est ce cycle-là que nous avons voulu réunir les morceaux de ce cycle, les morceaux qui subsistent, de 8 épopées. Les deux énormes piliers sont l'Iliade et l'Odyssée. Iliade, Achille, la colère, la fin de la guerre annoncée. L'Odyssée, retour d'Ulysse dans sa patrie. Mais
donc la question de l'Iliade, c'est pourquoi Zeus tolère-t-il les conséquences de la colère d'Achille. La question de l'Odyssée, c'est comment est-ce qu'on revient à la
chez
vie normale.
Et comment retrouve-t-on son identité d'homme?
Oui, mais les questions que se posent les auditeurs, vous le dites, sont multiples, parce qu'ils veulent entrer dans le détail.
Elles sont multiples, mais précisément, c'est ce continent perdu que nous avons réuni pour donner les causes chantées, répétées de cette guerre de Troie. Ensuite, le grand morceau autour d'Achille. Ensuite, à la mort d'Hector. Que se passe-t-il entre la mort d'Hector et la mort d'Achille? Ça, c'est l'Éthiopide, avec des personnages magnifiques, la reine des Amazones, le roi Memnon. Ensuite, le sac de Troie, comment les Troyens sont littéralement massacrés, comment toutes ces choses se produisent pour arriver au retour.
On va faire deux temps d'arrêt sur deux moments qui ne sont pas traités par l'Iliade et que l'auditeur a envie d'entendre traiter. C'est un peu comme les apocryphes pour le Nouveau Testament.
Oui.
Hein ? Qui c'était les rois mages ?
Exactement.
D'où viennent-ils ?
On trouve, et c'est pour ça que la comparaison avec le jazz est effectivement très pertinente, parce qu'on trouve ces reprises, on les trouve par d'autres biais, et ça c'est cet ensemble, ce fond épique qui faisait la culture des Grecs de la plus haute antiquité et qui n'a cessé d'être chanté.
Alors chanté, est-ce qu'on peut penser que ces textes homériques, postérieurs, intervenaient dans les récitatifs? Par exemple, on allait lire l'Iliade, ben avant ou après, on pouvait avoir dans un festival, dans un concours funèbre, religieux, en l'honneur d'un mort, en l'honneur de sportif, on pouvait avoir récitation.
Sans aucun doute, d'autant que ce soit l'Iliade ou l'Odyssée, on peut bien évidemment imaginer que jamais la totalité de ces deux poèmes n'était lue, parce que c'est considérable. En revanche, les autres, bon, il nous en reste que des petits morceaux, mais c'était forcément plus bref.
Alors j'ai promis deux temps d'arrêt, en voici un consacré aux Amazones, à Penthésilée, vous avez prononcé son nom tout à l'heure, elle va intervenir dans la guerre de Troie, portant secours à Priam, le roi de Troie, qui l'a comblé de cadeaux et qui lui en promet d'autres. Si elle sait défendre la ville assiégée, alors elle se lève et elle va affronter Achille. C'est le premier exemple, dites-vous, d'un duel à mort entre
un homme et une femme.
Un homme et une femme.
Priam la comble de beaux et riches présents et lui en promet bien d'autres si elle sait défendre les Troyens décimés par la guerre. Elle, alors, s'engage à faire ce que jamais mortel n'aurait cru possible, massacrer Achille, anéantir la vaste armée des Argiens et jeter dans la flamme leur nef. Folle enfant, elle ne sait pas combien Achille, avec sa bonne pique, excelle sur tous dans la bataille tueuse d'hommes.
Chien, vous allez payer aujourd'hui l'outrage infâme fait à Priam. Non, il ne sera pas dit que l'un de vous parvienne à éviter mon bras pour faire la joie de ses parents, de ses fils et de son épouse. Vos cadavres gisants seront la proie des oiseaux et des bêtes, et nul tertre de terre ne vous recouvrira. Où donc est aujourd'hui la force du Tidéide, et les Acides, et Ajax aussi? On prétend qu'ils sont des preux, mais contre moi, ils n'oseront pas combattre face à face. Ils ont peur que je ne leur arrache l'âme des membres pour la jeter chez les morts.
Elle dit, et pleine de superbe se rue sur les Argiens. On dirait la mort en personne.
Ben oui, mais ça va mal se passer pour elle.
Ça va mal se passer pour elle, mais là, encore un écho extraordinaire dans cet ensemble. C'est que dans quelques vers, elle va être terrassée par Achille. Et au moment où il va enlever son casque, il va découvrir ce corps, parce qu'elle a eu la très bonne idée de tomber pudiquement en cachant
son corps et
sa poitrine. Mais en enlevant le casque, il découvre une beauté absolument irrésistible. Et ça, c'est un clin d'œil absolu à la mort d'Hector, que Vernon a si joliment commenté. C'est-à-dire que le mort, après un exploit, est un corps qui est désirable.
Et il regrette de ne pas l'avoir emmené en son pays. C'est un texte très tardif quand même, Thésilée.
Oui,
ça comble un manque, mais c'est très tardif.
Ça comble un manque, mais c'est plus tardif, évidemment. Ouais.
Alors, deuxième exemple, deuxième temps, vous parliez du sac de Troie, mais les auditeurs des Aèdes, ce grand collectif, ces cohortes,
chanteurs,
ces générations de chanteurs, comme les auditeurs de France Inter, comme Fabrice Drouel, ici présent, que je salue.
Bonjour.
Ils ont envie d'avoir des détails cachés jusqu'ici sur les suites de la chute de Troie.
Tel ces torrents qui dévalent à grand fracas des sommets quand la pluie tombe à verse, charriant à la mer, en masse, les grands arbres et la végétation des montagnes mêlés à des blocs de rochers, tels les Danéens, après avoir saccagé par le feu la cité de Troie, charrient tout leur butin vers les nefs légères. Ils font aussi descendre de la ville les Troyennes qu'ils ont capturées çà et là, les vierges qui ignorent encore l'hymen auquel elles étaient promises, celles qu'un époux a depuis peu soumises aux joues d'amour, les vieilles aux tresses blanchies. D'autres plus jeunes qui ont vu arracher à leur sein leurs enfants, dont les lèvres gloutonnes réclamaient du lait pour la dernière fois. Agamemnon à la bonne pique emmène la divine Cassandre, le noble fils d'Achille, Andromaque. Ulysse, de son côté, entraîne de force Hécube. Les yeux de la malheureuse ruissellent de larmes comme une source. Des tremblements agitent ses membres, son cœur bat, fou d'angoisse. Elle a ravagé les cheveux de sa tête blanche et son corps est tout couvert des cendres qu'à pleine main elle a puisées au foyer et répandues sur elle en voyant expirer Priam et brûler la ville. Quel gémissement elle pousse, depuis que le jour de la servitude l'a prise dans son étreinte malgré elle. Chacun emmène une Troyenne en larmes pour la conduire à ses nefs sous la contrainte, et les captives, d'une voix hachée de sanglots, font retentir de tous côtés, ainsi que leurs petits-enfants, la plus lamentable des plaintes.
Page 1094 de Tout Homère, à la rubrique Post-Homérica. Il y a plein de détails, là.
Ah oui, et puis, ça va continuer, ils sont affreux. Oui, c'est toujours la suite d'Homère, Quintus de Smyrne.
Les personnages principaux, Andromaque, Hécube, Astyanax, leur destin est-il davantage détaillé dans ces postes américains?
Il est détaillé, il est absolument épouvantable, avec toujours votre comparaison avec le jazz, avec des variantes selon justement les traditions.
Alors l'Iliade, c'est une question, pourquoi Zeus a toléré les conséquences de la colère d'Achille? L'Odyssée, c'est une question, qu'est-ce qui se passe? Quel cercle traverse-t-on quand on quitte le monde des dieux et des héros mêlés pour revenir à la vie ordinaire, à la vie d'Ithaque? Ulysse, il voit là, à Ithaque, quand il rentre chez lui, Démodocos l'aide. Non, pardon, Phémios l'aide, il a rencontré un autre aide précédemment, Démodocos. Alors Phémios, c'est une figure d'Homère, c'est un aide qui parle pour faire plaisir à la clientèle, c'est-à-dire aux prétendants de Pénélope. Alors, qui sont là rassemblés, ou bien au nom d'autre chose?
Il parle évidemment au nom d'autre chose, même si pendant cette absence d'Ulysse, il a dû se plier à l'autorité sauvage des prétendants et donc chanter au cours des banquets, puisque c'est sa fonction. Et vous noterez que au moment du grand massacre des prétendants, pas seulement les prétendants, tous les serviteurs complices et déloyaux sont assassinés, sont tués, sauf Phémios.
Parce que Phémios, c'est la parole des muses.
Parce qu'il est la parole des muses, mais aussi, et c'est là que c'est très intéressant l'Odyssée, on voit l'installation du droit, parce qu'il a agi sous contrainte.
Tandis que Homère, lui, il n'est pas aussi loquace que Phémios quand il défend son rôle. Jamais Homère ne se nomme.
Non, jamais. À la différence d'Hésiode. Mais on ne parle pas de la même poésie. Non, Homère, c'est ça qui est splendide. Piero Pucci a dit une chose très belle. Il dit qu'à travers la bouche d'Homère, donc c'est ce poète pluriel, c'est la grâce du divin qui passe. Et par la voix et par la bouche.
C'est une musique divine qui nous accompagne à cet instant. Nous saluons l'effort collectif Tout Homère, Albin Michel, Belle Lettre. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, avec Juliette Gou à la réalisation, Selim Guéribi à la technique. Et demain, nous parlerons du symétrique d'Hésiode que vous avez déjà cité. Et chez vous, Fabrice Drouel.
Bonjour. Bonjour, une histoire qui devrait vous passionner, vous le spécialiste de l'histoire.
Spécialiste de rien.
L'affaire Karski, qu'on devrait plutôt appeler l'affaire Yannick Enel, Claude Lanzmann, une polémique entre un écrivain et un documentariste, Claude Lanzmann évidemment, Shoah, qui est résumé dans cette question: où sont les limites du roman face à l'histoire? Question qu'on aurait pu poser également autour des Bienveillantes, Jonathan Little par exemple, pris Goncourt en 2006.